Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Comment expliquer des altercations entre policiers et civils observées ces derniers jours, notamment en République démocratique du Congo et au Cameroun? Nous allons en débattre avec nos invités, mais d'abord place à votre rubrique décryptage et nous parlons du Mali.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Maître Mamadou Ismaël Konaté, bonjour.
Bonjour, madame.
Ancien ministre malien de la justice et avocat du président de transition déchu, Mbandao, et de son premier ministre Moctaouane. Vous affirmez que des hommes armés vous empêchent de voir vos deux clients. Comment ont-ils procédé?
Lundi, après avoir rencontré le bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali, et après avoir convenu d'un certain nombre de choses avec lui, bien évidemment, sur le principe de précaution, je me suis rendu au domicile de Badaou et de Moctaouane. Je me suis adressé à la sentinelle qui était en face de moi et à qui j'ai décliné donc mon identité ainsi que mon statut d'avocat en rappelant que je venais à la rencontre de mes clients. Et c'est là que, à tous les coups, aussi bien chez Badaou que chez Moctaouane, j'ai vu un refus absolu de passer au motif que ils n'avaient pas d'instruction me laissant passer. J'ai rappelé que ma présence n'avait pas besoin d'instruction. J'étais avocat régulièrement constitué et que je venais au contact de mes clients.
Est-ce que, officiellement, ces deux personnalités sont en résidence surveillée? Quel est leur statut aujourd'hui?
C'est une situation d'abord d'arrestation illégale, puis de maintien en situation d'assignation qui ne repose sur aucune base. La législation malienne prévoit l'assignation qui peut être une mesure ou judiciaire ou administrative. Dans l'un et dans l'autre cas, il n'y a absolument aucune base légale et mes clients ne se sont fait notifier aucune mesure comme celle-ci, n'ont jamais eu contact avec aucune autorité administrative ni aucune autorité judiciaire. C'est de la volonté des militaires que cela découle et c'est cette volonté qui viole le droit, qui viole la loi et qui heurte le bon sens. Et c'est pour cela que je suis avocat et c'est pour cela que je suis là justement pour rétablir par tous les moyens le droit et l'ensemble des libertés dont doivent jouir mes deux clients.
Combien de fois avez-vous essayé d'accéder à vos clients et combien de fois en avez-vous été empêché?
J'ai essayé une première fois, ça n'est pas passé. Je me suis référé au bâtonnier de l'ordre des avocats. J'attends que le bâtonnier de l'ordre des avocats m'installe dans la plénitude de ma profession et me donne l'occasion d'exercer mon droit.
En clair, Maître Konaté, vous avez fait une seule tentative? Oui, il y en a eu d'autres.
Je suis allé une fois, madame. Mon rang et mon expérience et ma situation d'ancien garde des Sceaux ne me permet pas d'aller au contact physique des militaires de surcroît armés. Je me suis référé au bâtonnier. J'attends que le bâtonnier de l'ordre des avocats prenne la plénitude de la mesure de la chose et m'installe dans ma fonction d'avocat dans le cadre de ce dossier.
Ces hommes armés qui, selon vous, vous ont empêché d'accéder à vos clients, auraient-ils agi de leur propre gré ou sur instruction? Et si oui, de qui?
Du tout. Vu le niveau de grade des personnes que j'ai eues en face et qui étaient donc aux premières loges, ce sont des sous-officiers, ce sont des hommes de rang pour la plupart, comme on en voit. Visiblement, ils ne sont pas à l'origine des instructions qu'ils exécutent. Bien évidemment, ces instructions ont été données en haut lieu. Et j'implique le colonel Assimi Goïta lui-même, j'implique le chef du gouvernement, Choguel Boukala Maïga, qui lui a rappelé que mes clients ne peuvent pas être libres avant qu'ils n'aient signé une autorisation. Et j'attends qu'il me précise quelle autorisation. Et j'en appelle au ministre de la Justice, à ces trois autorités. Je leur ai écrit du courrier pour leur dire ma présence, d'une part, ma volonté d'aller à leur contact pour discuter de la situation de mes clients qui n'ont pas d'autre raison d'être dans la situation dans laquelle ils sont. Ils doivent être libres.
Dans un tweet la semaine dernière, vous avez tenu pour responsable de la sécurité de vos clients, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, et son premier ministre Choguel Kokala Maïga. Est-ce une stratégie de pression sur ces deux personnalités pour obtenir l'accès à vos clients, ou craignez-vous sérieusement pour la vie de l'ancien président de transition et de l'ex-premier ministre Moctawan?
Et je crains, d'autant plus que j'ai des raisons de craindre. Lui-même, Assimi Goïta, aussi colonel qu'il soit, chef de l'État et président de la transition, a été l'objet d'une tentative de meurtre regrettable. Dans ces conditions, qu'un premier ministre de la République demande à ce que l'ancien premier ministre, l'ancien chef d'État, pour recouvrer leur liberté, doivent s'engager à renoncer à ce que l'État soit le premier responsable de leur sécurité, cela est une source de crainte pour moi.
Quel autre moyen disposez-vous pour obtenir la liberté et l'accès à vos clients?
Aujourd'hui, la saisine de la Cour de justice de la CEDEAO est effective. Deuxièmement, en tant qu'avocat, je suis sous la juridiction du bâtonnet de l'Ordre des avocats. J'attends qu'il agisse à ce niveau-là pour m'installer dans la plénitude de mes droits pour que je puisse exercer ma profession. Là encore, ce n'est pas de l'aumône, c'est un droit que je
demande. Et ça a été le cas. Vous avez eu la promesse ferme du bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali de vous aider à accéder à vos clients?
C'est la prérogative qui lui incombe, c'est lui qui doit l'exercer. Il m'a demandé lui-même de lui écrire du courrier, ce qui est fait depuis 48 heures. Et enfin, je vous indique que nous sommes suffisamment avancés dans l'analyse d'une plainte personnelle à déposer contre ces trois autorités que j'ai indiquées en conséquence de l'arrestation, des arrestations illégales, d'une part, de la séquestration de ces deux personnalités, d'autre part.
Maître Mamadou Ismaïla Konaté, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
18h14 à Paris, bienvenue. Nous allons parler ce soir des relations plutôt difficiles, voire tendues entre policiers et civils. En République démocratique du Congo, des étudiants de l'université de Kinshasa ont manifesté cette semaine pour protester contre la mort le week-end dernier d'un de leurs tués par un policier qui le reprochait de ne pas porter de masque. La manifestation a été dispersée et le 20 juillet dernier au Cameroun, on a assisté à une vive altercation entre un policier et une députée. Les images de cette empoignade ont circulé abondamment sur les réseaux sociaux. À l'origine de cette dispute, le refus par l'agent de police d'ouvrir le passage au véhicule de la parlementaire. Alors, comment expliquer de tels incidents? Quelles sont les solutions pour mettre fin à ce que certains appellent brutalité policière observée dans certains pays africains ces derniers mois? Nous allons en débattre avec trois invités. D'abord, Madame Fatou Baldé, activiste des droits humains et directrice exécutive de la COFEL, c'est la coalition des femmes leaders de Guinée. Bonsoir Madame Baldé.
Oui, bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons également le plaisir d'accueillir deux policiers. Colonel François Kabeya, bonsoir. Vous êtes policier et maire de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas encore le colonel Kabeya, mais Abdoulaye Kanté est déjà avec nous. Bonsoir, monsieur Kanté.
Oui, bonsoir à tous.
Vous êtes policier franco-malien dans les Hauts-de-Seine, ici en France, et référent des questions de relations entre la police et les populations à Bamako. Avant de commencer le débat, dites-nous, monsieur Kanté, en quoi consiste le rôle d'un référent des questions de relations entre la police et les populations? C'est-à-dire, c'est un rôle de médiateur?
Écoutez, je pense que, vous savez, la police, la population a besoin de sa police. Elle a aussi besoin aussi de tisser des liens avec ces femmes et des hommes qui assurent sa sécurité au quotidien. Et effectivement, pour éviter tout malentendu, pour éviter cette espèce de fossé qui risque de se créer par cause de l'incompréhension ou de mauvais échanges avec sa police, il est nécessaire de pouvoir tisser des liens, une bonne communication. Pour faire expliquer nos actions de la police, il faut savoir communiquer, il faut savoir expliquer, afin que la population puisse comprendre nos actions. Donc je pense que le rôle de référent aussi a son utilité dans le sens où il faut pouvoir instaurer le dialogue.
Merci. Donc c'est un rôle de dialogue, d'entremetteur en quelque sorte ou de médiateur. Merci pour cette précision, monsieur Kanté. Alors, colonel François Kabeya, bonsoir. Colonel,
oui,
vous m'entendez?
Bonjour, merci.
Oui, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je commence avec vous hein, pour avoir les dernières informations de ce qui se passe chez vous dans le cas de la mort de cet étudiant. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire si le policier, déjà auteur du tir mortel ou auteur présumé de l'étudiant, a été appréhendé puisqu'il avait pris la fuite?
Bon, merci beaucoup, madame, pour la question. Les enquêtes sont en cours pour la mort de l'étudiant, parce que ça s'est passé dans des conditions jusque-là bien investiguées par les enquêteurs. Mais néanmoins, on est sur la piste, parce que la police a suspecté certaines personnes dont elle est en train de mener des investigations.
D'accord, il a été identifié, mais il n'a pas encore été arrêté. Et également, dites-nous, que s'est-il réellement passé ce jour-là dans cette ruelle de Kinshasa, alors que l'étudiant tournait des vidéos pour les travaux pratiques dans le cadre de sa formation?
Bon, madame, vous savez, la scène où la chose s'est passée vers le verre du soir. Alors, il est difficile pour nous directement de donner une version de la chose. C'est pourquoi je dis que la police technique scientifique est en train de mener des enquêtes et la police criminelle.
Mais l'événement a eu lieu samedi, nous sommes mercredi. Quels sont les premiers éléments dont vous disposez de précis et de vérifiable sur cette affaire?
Là, vraiment, en tant que maire, il ne faudra pas que je donne des histoires, les résultats qui n'est pas du tout vérifiable. La police me donne les résultats demain matin. Bon, comme vous m'avez pris et comme ça, j'ai laissé le commandement au bureau avec toute son équipe. Je pense que si on pouvait revenir sur ça demain, et vous verrez tous les éléments possibles.
D'accord. Merci, colonel Kabeya. Madame Baldé, des images comme celles auxquelles on a assisté en RDC le week-end dernier, est-ce qu'elles vous sont familières? Est-ce qu'en Guinée, il y a aussi des cas où on parle de bavures ou des civils tués par des tirs de policiers?
Ok, madame, merci de m'avoir donné l'occasion de participer à ce débat. Je dis aussi bonjour aux confrères qui sont sur le plateau. Vous savez, la Guinée a une tradition de violence policière et voire même de violence d'État depuis son indépendance jusqu'à aujourd'hui. Alors, il vous souviendra, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez connu comme les geôles du Camboiro, comme on appelle
sous
les
tueries
qui ont eu lieu ici en 85. Mais quand on prend par exemple de 2010, où on était censé rentrer définitivement dans un système civil avec un régime dit démocratique, c'est plus de 200 morts par balle par la police guinéenne qu'on a observé.
Mais il faut peut-être signaler, Madame Baldé, je pense qu'il est important de dire que c'est notamment dans le cadre des manifestations politiques de l'opposition.
Il y a des tueries quand il y a des manifestations politiques. Mais plus loin, lorsque les manifestations sont finies, le lendemain de manifestation même, des fois, devient beaucoup plus violent que la veille. Parce qu'entre-temps, les forces de l'ordre vont dans les quartiers les quartiers vulnérables, où vont directement s'en prendre ou faire arrêter des jeunes sur des bases non fondées et qui les mettent en prison. Vous avez suivi tout dernièrement, c'était des kidnappings carrément, des citoyens qui sont dans leurs occupations quotidiennes de tous les jours, ils voient surgir un groupe de policiers qui les arrête sans convocation, sans aucune forme d'interpellation et qui sont retenus des mois au niveau de la police judiciaire jusqu'à envoyer à la prison sans jugement. Ça, c'est des cas qu'on vit actuellement.
Et comment qualifieriez-vous les relations aujourd'hui entre civils et la police guinéenne?
Bon,
au regard de ce que vous dites,
c'est des relations très tendues. Il n'y a qu'en Guinée, lorsque vous apercevez un policier, c'est la peur qui vous hante. C'est soit il vous soutire de l'argent, le racketage, ou alors il vous crée un problème qui n'existe pas. Et nous, en tant que civils, depuis 2006, on avait constaté cette situation difficile. On a mis en place ce qu'on a appelé le comité civilo-militaire. De ce comité civilo-militaire, il fallait créer un dialogue entre civils et policiers et paramilitaires et tout, pour qu'on puisse quand même construire la confiance entre les corps habillés et la population civile.
Madame Baldé, rassurez-vous, on reviendra tout à l'heure sur ces mesures, sur les solutions. Quand on va aborder l'aspect des solutions, vous nous direz quels sont vos efforts pour qu'il y ait cette réconciliation entre policiers et civils, puisque vous dites que les relations sont plutôt tendues. Monsieur Kanté, quand vous écoutez de telles situations décrites en Guinée, et on parlait aussi du cas de la RDC où l'étudiant a été tué pour une affaire de masque. Est-ce que vous dites en France, on est loin de tout cela? La question des violences policières fait aussi débat ici.
Ça fait débat aussi, vous savez, en France aussi ici. Hein, c'est une question justement qui est très existentielle avec notamment, vous savez, nous sommes dans une période assez compliquée avec une pandémie mondiale qui est là et qui justement atteint aussi à certaines des libertés fondamentales qui fait justement le quotidien des Français. Et voilà, quand on voit qu'on parle des violences illégitimes, parce que le terme violence policière, c'est pas un terme que j'aime utiliser, parce qu'il s'agit de violence. Vous savez que la police en général a le monopole de la violence parce que c'est dans nos codes, dans le code de loi ici. Et à partir du moment qu'elle devient illégitime, c'est-à-dire que quand le policier est sorti de ses prérogatives déontologiques.
Donc vous dites que c'est l'expression appropriée de votre point de vue ou selon la police, c'est violence illégitime.
Bien sûr, parce
qu'il y a des violences légitimes.
Une violence légitime, c'est que quand vous interpellez un individu justement qui est, on va dire, coupable d'une infraction et qui ne veut pas se laisser faire, forcément, vous êtes obligé d'utiliser la manière coercitive pour qu'il puisse contempérer à votre aux injonctions.
Mais le problème, c'est que parfois, il est difficile de faire, de savoir à quel moment commence et prend fin la violence, ce que vous appelez la violence légitime. Vous êtes policier, vous le savez, mais l'usager que vous interpellez.
Vous savez, l'usager, le souci, c'est que vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec les images que l'on voit souvent, il y a toujours aussi un problème d'interprétation. Parce que vous savez, l'usager, qu'est-ce qu'il voit? Il voit effectivement un policier qui est en train d'essayer d'interpeller tant bien que mal un individu qui ne veut pas se laisser faire. Et je dis souvent que la réalité du terrain, c'est cela. C'est que quand vous avez quelqu'un qui ne veut pas se laisser faire, forcément, vous êtes obligé d'utiliser la force. C'est ça. Et l'utilisation de la force peut paraître choquant, mais celle-là, elle permet aussi de pouvoir mettre fin à un individu qui a commis une infraction. Ceci dit, à partir du moment que l'individu a été interpellé et qu'il est menotté et qu'il est au sol, et que vous, en tant que policier, vous usez encore de la violence, c'est-à-dire qu'il est menotté, c'est terminé, là, par contre, vous rentrez dans le champ de l'illégitimité.
La force disproportionnée.
Exactement, c'est ça. C'est que, voilà, à partir du moment que l'individu est maîtrisé, il est prêt à être, entre parenthèses, embarqué, on va dire, et que là, à ce moment-là, vous lui mettez une gifle, ou vous lui sortez des propos, on va dire, pas très très bien. Donc forcément, on rentre dans une forme de illégitimité de la violence. Et là, par contre, oui, le policier sera coupable de cela. Mais par ailleurs, je voulais rebondir sur concernant les problématiques concernant le port du masque. En France, nous avons eu aussi ces problématiques-là concernant les mesures de restriction par rapport à la crise sanitaire. Il faut savoir que quand vous n'avez pas le port du masque, vous étiez assujetti à une amende.
135 euros.
C'est à 135 euros. Parce que cela permettait aussi de pouvoir essayer de stopper, on va dire, la propagation de l'épidémie et aussi de côté d'éviter que des personnes aillent en réanimation. Que c'est à double tranchant. Et le policier était là pour essayer de faire ce boulot, tant bien que mal.
Merci, M. Kanté. Et dans la suite, la seconde partie de ce débat, nous allons justement voir avec notre invité congolais dans un instant pourquoi le policier en question n'a pas simplement appliqué cette sanction, puisqu'elle est prévue en RDC. Et nous allons également parler des causes des relations tendues entre policiers et civils. À tout de suite.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Qu'est-ce qui explique les relations parfois tendues, comme ça a été le cas en RDC et au Cameroun ces derniers jours, entre policiers et civils? Nous en débattons ce soir avec trois invités. Abdoulaye Kanté, policier franco-malien dans les Hauts-de-Seine en France et référent des questions de relations entre la police et les populations à Bamako. Fatou Baldé, activiste des droits humains et directrice exécutive de la COFEL, c'est la coalition des femmes leaders de Guinée, elle est à Conakry. Et en ligne de Goma, en République démocratique du Congo, le colonel François Kabeya, policier et maire de Goma. Donc, colonel Kabeya, avant de réagir sur les causes de ces incidents, dites-nous, monsieur Kanté parlait tout à l'heure des 135 euros d'amende pour des personnes interpellées qui ne portent pas de masque, mesure prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Pourquoi votre collègue n'a-t-il pas simplement décidé de sanctionner l'étudiant? Il y a une amende de 5 dollars qui est prévue pour ce cas-là. Colonel Kabeya, il nous entendait à l'instant, mais il semble que ce n'est plus le cas. Je vais donc revenir à vous, Madame Baldé. Comment expliquez-vous cette attitude des policiers envers les civils? Qui est le problème? Est-ce que ce sont les civils qui ne comprennent pas très bien le rôle des policiers ou ce sont les policiers qui ne savent pas toujours comment agir face à certaines situations difficiles?
Bon, à l'analyse de la situation, il faut d'abord remonter à la base. L'armée ou la police guinéenne est devenue un dépotoir parce que tous les enfants qui ont une éducation difficile ou qui ont des situations scolaires difficiles ou qui sont devenus pratiquement des délinquants au niveau de leur famille, pour se débarrasser d'eux, essayent de les incorporer à la police, estimant qu'une fois devenus des agents de police, ils vont s'assagir. Donc souvent, c'est des délinquants qu'on recrute pour la majeure partie et qui n'ont pas un niveau d'études assez conséquent pour comprendre ce que c'est que le droit et les devoirs.
Mais Madame Baldé, vous n'allez pas quand même dire que tous les policiers suspectés ou coupables de certains comportements jugés inappropriés dans l'exercice de leurs fonctions, ce sont des anciens délinquants?
Vous savez, lorsque vous regardez l'architecture même de la police, quand vous avez affaire à la haute hiérarchie, les hauts cadres, c'est des personnes très bien formées, qui connaissent très bien les droits humains, qui ont souvent même fait des opérations de maintien de paix dans le monde quelque part. Donc, eux, ils ont la formation. Mais malheureusement, les agents de terrain, ceux qui sont aux opérations de maintien d'ordre sur le terrain, quand vous les prenez à 70%, soit ils ont un niveau d'études très faible, ils n'ont pas été formés au concept de maintien d'ordre, ne connaissent pas les concepts de droits humains et les droits et devoirs du citoyen et même du policier, et donc ça crée un problème. C'est un plaidoyer que les organisations de la société civile ont eu à faire depuis de très très longues années, de revoir le mode de recrutement de l'armée, de la police et de la gendarmerie. Voilà. Je peux vous assurer qu'une majeure partie de ceux qui commettent ces bavures ne sont pas outillés intellectuellement et moralement pour assumer les rôles de maintien d'ordre dans une situation quelconque. Merci. Parce que c'est en Guinée où vous voyez un policier qui brûle le feu rouge ou alors qui vient se mettre en sens inverse. Quand un civil se permet de lui faire la remarque, il est capable de se jeter sur vous et vous frapper en vous disant « Est-ce que tu sais qui je suis ?» Parce que tout simplement ici, le port de la tenue est une caution à l'impunité.
Merci, Madame Baldé. Colonel François Kabeya, vous m'entendez? Allô?
Oui, madame.
Voilà, je demandais avant de répondre, avant de répondre à la question sur votre avis sur les causes qui expliquent de tels comportements, savoir, il y a une amende de 10 000 francs congolais, soit 5 dollars en RDC, pour les personnes qui refusent de porter le masque. Pourquoi le policier n'a-t-il pas simplement imposé cette amende à l'étudiant?
Vous dites?
Allô?
Je vous parle trop mal. Hein.
Oui, colonel, je parlais d'amende. Pourquoi le policier n'a-t-il pas appliqué l'amende contre l'étudiant, tout simplement?
En fait, il n'y a pas ces réseaux.
Bon, on va revenir à vous tout à l'heure. Oui, on va revenir à vous si la liaison ne passe pas. Est-ce que vous m'entendez?
Oui, en tout cas, moi, je vous capte trop mal. Je suis prêt à parler avec vous, mais je ne me sens pas bien.
Quelles sont, d'après vous, les causes de tels incidents? Est-ce que ce qui est vrai pour la Guinée l'est pour la RDC? Madame Baldé parlait de problèmes de formation. Que pour elle, les causes de cette situation, c'est d'abord le problème de formation des policiers. Bon, on va peut-être renoncer. Monsieur Kanté, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui. Est-ce que vous partagez, je veux dire, vous n'êtes pas en Guinée, mais ce que Madame Baldé dit est peut-être vrai pour la Guinée, mais elle parlait de problèmes de formation, du profil des policiers recrutés. Quels sont, selon vous, est-ce que déjà cette situation est aussi celle de la France, et quelles sont les autres causes qui expliqueraient des comportements inappropriés attribués à certains policiers?
Alors, il faut savoir que vous savez, c'est deux, on va dire, deux pays différents, etc. Les problématiques de l'Afrique et françaises sont totalement différentes, mais il y a peut-être aussi un point focal sur lequel on peut se poser des questions sur la formation. Moi, je vais parler de ce que je connais, c'est-à-dire la formation française, qui est quand même bonne. Mais, en fait, quand on voit que la société évolue énormément, les problématiques de la société évoluent, donc il faut savoir pouvoir répondre de manière efficace. Quand vous devez répondre de manière efficace aux demandes de la société, notamment parce que la société devient de plus en plus violente, il faut avoir des hommes et des femmes formés à ces questions-là. Le problème, c'est que quand vous avez, par rapport au recrutement, j'ai tendance à dire souvent que le quantitatif ne fait pas le qualitatif. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand vous avez des politiques qui arrivent au pouvoir, ils ont une vision certaine de la sécurité. Et il y en a qui font et qui défont. Et que le souci, c'est que le principe régalien, c'est-à-dire que l'outil régalien qui est censé assurer la sécurité des personnes, justement, pâtit de cela. Donc quand un politique décide à avoir une vision sécuritaire qui est peut-être n'est pas en coordination avec les demandes de la population, on arrive souvent aussi à des problématiques de recrutement. C'est-à-dire que quand vous avez un recrutement de masse qui est fait, donc forcément vous avez aussi peut-être aussi des individus qui arrivent en ce qu'on appelle à passer à travers le trou de la raquette. Donc ils sont peut-être pas faits pour ce métier-là. Et que quand ils sont en exercice, il est du devoir de l'administration policière d'être plus vigilant, parce que ce sont ces personnes-là qui vont servir nos
concitoyens. Mais sauf que, même s'il y a un problème, M. Kanté, au niveau de recrutement, mais sauf que en fin de compte, c'est l'institution qu'on voit. Ce n'est pas l'agent qui a posé l'acte, mais c'est l'ensemble de la police.
Ben écoutez, je vais vous faire simple et tout. J'ai quelques chiffres. Quand on regarde sur l'ensemble des interventions de policiers qui se font en France, nous sommes à hauteur de 5 millions d'interventions par an. Vous avez environ 8500 interventions par jour. Une intervention toutes les 10 secondes. Alors, j'ai envie de vous dire que s'il y a une défaillance, c'est-à-dire d'un agent, ça représente 0,001% des actions de la police. Parce que moi, j'y reste clairement, je vais dire en France, la population soutient sa police. Mais pour autant, il ne faut pas fermer les yeux aussi sur certaines problématiques qui doivent être vraiment prises.
Mais dans ce cas, qui faut-il blâmer alors? C'est l'État qui est l'employeur de ces policiers indélicats qui est responsable?
Vous savez, j'ai envie de dire que la responsabilité est collective, parce qu'on ne peut pas non plus tout donner sur l'État. On ne peut pas non plus tout attendre de l'État. La police, vous savez, c'est le dernier rempart. C'est le dernier rempart. Parce que si on doit tout mettre comme responsabilité sur la police, quid de la responsabilité de l'éducation nationale? Quid de la responsabilité parentale? Quid de la responsabilité des individus eux-mêmes? C'est-à-dire que c'est trop facile après de tout mettre sur la police. Quand vous avez par exemple des policiers, des collègues à nous, nous allons dans des quartiers difficiles pour justement, parce que nous allons à la demande des personnes qui habitent là.
Merci.
Des contrôles, des agressions, etc. Toutes ces choses-là, c'est une réalité. Donc j'ai envie de vous dire que c'est collectif. Il est le devoir d'être vigilant. Tout le monde doit prendre sa part de responsabilité pour pouvoir essayer de régler ce genre de phénomène.
Merci, M. Kanté. Nous avons finalement renoncé à essayer d'avoir le colonel François Kabeya, policier maire de Goma, RDC, à cause de la mauvaise qualité de liaison téléphonique. Alors, Mme Baldé, vous dites que vous mettez toute la responsabilité de ces incidents sur les policiers, enfin, la plupart d'entre eux qui seraient mal formés. Mais que pensez-vous de ce que vient de dire M. Kanté ? Qu'il y a aussi d'autres responsables de cette situation?
Oui, vous savez, il est très difficile de comparer la situation dans laquelle M. Kanté exerce à celle dans laquelle nous vivons ici. La preuve seulement, c'est de voir les rapports sur les relations entre policiers et civils, sur les droits humains dans le pays qui ont été émis depuis le début de l'année. Le rapport de l'Union européenne, le rapport du département d'État américain, qui a catégoriquement fustigé le comportement donc, du gouvernement, plus celui des forces de l'ordre qui sont dépendants donc, de ce même gouvernement.
En même temps, madame, est-ce que les civils ont aussi un comportement exemplaire lorsqu'ils sont face à des forces de police? Je prends l'exemple de l'incident dont nous avons parlé au Cameroun. Une députée arrive sur une voie qui a été barrée en raison de la fête de Tabaski. Il y avait la prière sur la voie publique, barrée par des policiers sur ordre du gouverneur qui lui-même assistait à la cérémonie. On lui indique une voie de contournement, elle refuse et force et tente de forcer le passage. Est-ce que de tels comportements aussi ne peuvent pas expliquer des réponses de ce type, c'est-à-dire des altercations avec les policiers?
Vous comprendrez qu'il faut être une députée pour oser braver les forces de l'ordre de la sorte, parce que cette députée oublie qu'elle est elle est représentante du peuple camerounais et qu'elle doit être l'exemplarité même de l'application de la loi. Alors, si elle a osé le faire parce qu'elle a estimé qu'elle a une caution derrière elle qui peut l'empêcher d'être poursuivie ou d'être brutalisée ou quoi qui arrive. Mais un citoyen lambda, à moins qu'il soit dans un état, je ne sais pas, incontrôlé, à imaginer qu'il est dans un état d'ébriété, il est très difficile de braver les forces de l'ordre. Chez nous ici, qu'est-ce qu'on observe? Au début, les gens sont là, ils veulent vraiment suivre les choses à la lettre. Mais malheureusement, à un moment donné, le comportement des policiers énerve les civils et ils commencent à réagir. Et ça crée donc des altercations.
Mais est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas-là la responsabilité des civils aussi qui perdent leur sang-froid, autant qu'on le reproche aux policiers? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des reproches à faire à certains usagers?
Vous savez, il est difficile de comparer les rapports de force lorsque l'un a une Kalachnikov, un PMAK avec des grenades et des citernes à eau chaude, et que de l'autre côté, l'autre n'a que ses mains et sa bouche. Ou alors, je ne sais pas, il prend un caillou qu'il peut jeter. Le rapport de force n'est pas du tout comparable. Mais ici, la police égale force, égale brutalité, égale violation des droits humains. Violence. La police égale violence ici. Je peux comprendre, il arrive qu'il y a j'ai vécu en France. J'ai vécu en France pendant des années. J'ai vu comment la police est... J'ai vécu en France, je n'ai jamais eu de problème, par exemple, même de contrôle de routine pendant des années. Parce que j'ai estimé que c'est un pays de loi, un pays des droits de l'homme, il faut respecter les règles et en contrepartie, les forces de l'ordre, les autorités te respecteront. Si tu es dans les normes et puis tu ajoutes le respect des
donc
lois,
vous pensez le problème ici, aussi, c'est l'impunité peut-être.
L'impunité ici est devenue une gangrène et la position hiérarchique dans la société, l'administration, constitue aussi des levains à cette impunité-là. Du coup, ce sont les plus hauts placés qui provoquent la police et qui bafouent leur autorité. Et malheureusement, ces personnes-là vont passer haut les mains le civil ordinaire qui viendra après trouver le policier dans sa colère, c'est lui qui va subir le pot cassé.
Merci Madame Baldé. On marque une pause et on parlera tout à l'heure des conséquences de ces actes sur la relation entre policiers et civils et des solutions possibles.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous parlons ce soir des incidents qui opposent souvent policiers et civils. Quelles sont les solutions pour mettre fin à ce que certains appellent brutalité policière observée dans certains pays africains? Ça a été le cas au Cameroun et en RDC récemment. Et nous en parlons avec Abdoulaye Kanté, policier franco-malien dans les Hauts-de-Seine ici en France et référent des questions de relations entre la police et les populations à Bamako au Mali. Et Fatou Baldé, activiste des droits humains et directrice exécutive de la COFEL, c'est la coalition des femmes leaders de Guinée à Conakry, et nous n'arrivons pas à voir en meilleure qualité notre troisième invité, colonel François Kabeya, policier et maire de la ville de Goma dans l'est de la RDC. Monsieur Kanté, on se rend compte que ces relations difficiles ont des conséquences, c'est-à-dire qu'il y a des conséquences sur ces actes, des conséquences sur les relations entre civils censés être protégés par les policiers et ces policiers eux-mêmes.
Oui, vous savez que, comme j'expliquais, donc la police est vraiment dans le quotidien des citoyens, notamment concernant leur sécurité. Il est d'une nécessité justement pour qu'il y ait une bonne synergie entre ces deux parties, une bonne communication et aussi que le régalien puisse aussi faire comprendre aussi ses actions. Après, comme je vous ai expliqué, donc des fois, par manque de communication, par manque de compréhension, donc on peut tomber évidemment sur des malentendus ou sur des choses qui peuvent être choquantes. Mais si on doit parler du côté, d'administration policière, si je dois parler, on va dire, côté français, il y a eu de l'amélioration dans ce sens-là. Il y a eu de l'amélioration dans ce sens-là où pourtant, il y a eu une grosse communication qui est faite, notamment en développant des initiatives donc avec des jeunes, parce que vous savez, c'est à partir de la jeunesse qu'on essaie d'expliquer, de pouvoir faire de la pédagogie. Pour moi, j'estime encore que la meilleure des armes, ce n'est pas l'arme qu'on porte.
L'hostilité envers la police est surtout observée chez les jeunes.
Elle est observée par les jeunes parce que, vous savez, les jeunes ici se calquent énormément par rapport aux réseaux sociaux. Et on sait très bien comment ça se passe au niveau des réseaux sociaux, où c'est, on va dire, le degré zéro de l'information. Vous ne pouvez pas aussi tout prendre pour acquis là-dessus. Et il y a beaucoup des informations, des fake news. Et ça aussi, j'ai envie de dire, oriente un petit peu la façon de penser des jeunes.
Mais quand vous travaillez aussi sur l'Afrique, là c'est pour la France, mais parlons un peu de l'Afrique avec les cas qui nous intéressent ce soir, l'altercation entre un député et un policier au Cameroun, ou cette bavure, puisque c'est ce que la police congolaise a admis, qu'il y a eu cette bavure contre l'étudiant qui est décédé. Quelles sont les solutions pratiques et à prendre pour que de telles situations n'arrivent pas et finalement compliquent les relations entre les deux parties?
Je pense qu'il faut mettre vraiment devant face à ces responsabilités qui se disent les policiers qui portent quand même un uniforme. C'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, l'outil déontologique, qui est quand même très important. Et la problématique de l'Afrique, c'est que quand on est policier, effectivement, l'autorité est respectée. Mais quand l'autorité est respectée, cela ne lui donne pas non plus tous les droits. Parce qu'il y a des droits et des devoirs envers les citoyens. Et que quand, justement, comment voulez-vous qu'il y ait une confiance du citoyen envers la police si elle-même, la police, se comporte mal avec le citoyen? Donc je pense qu'il est le devoir des institutions, de l'institution en elle-même, des inspections générales, de pouvoir aussi, on va dire, dépoussiérer, réformer totalement la manière de penser des policiers, on va dire en Afrique, au Cameroun ou au Congo, et même au Mali aussi. Quand on voit aussi certains comportements, j'ai envie de dire que c'est la réalité de l'Afrique.
Mais pour le Mali, est-ce que l'ampleur de tels incidents est aussi importante?
Vous savez, maintenant, je pense que, vous savez, le Malien, en plus, on vit une crise aussi assez compliquée aussi en ce moment ici, donc politico-sécuritaire, et qu'il suffit d'un petit, une petite friction pour que ça s'enflamme. Même récemment, il y a eu un refus d'obtempérer, il y a quelques jours,
où il y a eu quand même une personne qui a refusé de s'arrêter à un contrôle de police, et malheureusement cette personne est décédée suite à un accident. Et ça a créé justement une manifestation, et il fallait que ce calme, parce que la population avait besoin de savoir ce qui s'était passé. Je pense qu'il faut aussi de la transparence pour essayer de comprendre aussi les actions de la police.
Merci.
Tant qu'il n'y a pas de transparence du côté policier, la population ne comprendra pas non plus nos actions.
Madame Baldé, vous disiez tout à l'heure, hein, en fait, que ces incidents ont tellement été nombreux qu'il y a eu un manque de confiance entre population civile et policiers. Ce sont des relations de peur, de suspicion, des relations heurtées. Et vous parliez de la mise en place à votre niveau d'un comité civilo-militaire pour essayer de résoudre le problème.
Oui. Effectivement, il y a près d'une dizaine d'années, on avait pensé qu'il fallait créer un pont de dialogue entre les corps habillés et les populations civiles. On a commencé ce dialogue civilo-militaire. Entre-temps, il y a eu le putsch,
de Dadis Camara.
De Dadis Camara. Les militaires sont revenus, les choses se sont compliquées jusqu'à ce qu'il y ait eu les massacres du 28 septembre qui ont encore contribué à exacerber les relations civilo-militaires. Mais plus loin, on a pensé à réformer le secteur de la sécurité. Je crois que la plus grosse arnaque que la Guinée ait prise avec elle et qu'on a suivie pendant des années, c'est cette réforme de l'armée. Il avait été dit que les armes, donc les militaires, les policiers, les gendarmes n'allaient plus se promener avec les armes létales en pleine ville, et puis beaucoup d'autres mesures vraiment qui allaient contribuer à pacifier les relations entre ces deux entités. Mais malheureusement, même tout dernièrement, on a vécu une situation où un policier est venu prendre son petit verre dans un bar, et lorsqu'il
en
a
tenue.
Été question... En tenue, oui. Quand il a été question qu'il porte le masque et qu'il se lave les mains, qu'il se lave les mains du moins avant de rentrer dans l'établissement, il a refusé. Et lorsque le monsieur a insisté, il a sorti son arme, il a tiré il a fait des tirs de sommation.
Allô, Madame Baldé?
Oui, j'ai dit, il a fait des tirs de sommation.
Oui, au regard du diagnostic que vous avez posé, par quoi passe la solution aujourd'hui? Comment, quelles sont les solutions absolument à mettre en œuvre pour
faire cesser cette brutalité? Il s'agit d'une réelle volonté politique, d'abord de dépolitiser les forces de police. Il faut les dépolitiser. Quand je dis de les dépolitiser, il faut arrêter de pousser les policiers à aller dans des quartiers ou dans des zones qui sont censées être les fiefs des partis d'opposition pour aller sévir. Pendant ce temps, il y aura la même manifestation dans un endroit où on estime que ici ce sont les militants du pouvoir et qui ne seront pas inquiétés. On a vu des cas de figure ici, les images existent. Nous avons des archives sur ça. Et donc il faut dépolitiser la police et la rendre professionnelle, et surtout permettre à un citoyen que lorsqu'il est victime d'une bavure policière ou d'une injustice policière, qu'il puisse aller se plaindre et que ce policier ou ce gendarme ou que ce militaire soit interpellé, écouté, jugé.
Donc que cesse l'impunité et que les policiers puissent rendre compte en cas d'acte indélicat.
Il faut qu'ils rendent compte. Parce que n'oublions quand même pas, ils sont nourris, habillés, payés par les impôts du contribuable. Et nous sommes un pays qui est censé être en paix, mais le budget de l'armée est le plus élevé de tous les départements. Pendant ce temps, on a des problèmes de santé, d'éducation, d'environnement et tout des priorités. Mais les dirigeants font de l'armée, la police et la gendarmerie des priorités pour sévir et asseoir leur pouvoir.
D'accord. Donc, problème de dépolitisation, il faut dépolitiser l'armée, il faut que cesse l'impunité. Mais vous parlez aussi, vous insistez sur la formation de ces policiers.
Oui, la formation. Il faut insister sur la formation. Lorsque vous avez un policier qui ne peut pas s'asseoir, lire et décrypter les outils, les textes qui l'aident à exercer sa fonction, il devient un criminel en puissance.
D'accord. Merci beaucoup, Madame Fatou Baldé, activiste des droits humains et directrice exécutive de la COFEL, la coalition des femmes leaders de Guinée. Vous êtes à Conakry d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à vous, Abdoulaye Kanté, policier franco-malien dans les Hauts-de-Seine, ici en France, et référent des questions de relations entre la police et les populations à Bamako, et le colonel François Kabeya, policier et maire de la ville de Goma en RDC, qui n'a pas eu malheureusement l'occasion de participer pleinement à cette émission en raison des difficultés de liaison avec Goma. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.